Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui, nous allons passer de très beaux moments en musique. Je vous propose aujourd'hui un itinéraire musical qui va traverser trois grandes traditions européennes qui sont tout autant de manières d'inscrire la musique dans le sacré. Alors je vous fais, tant que j'y suis, le sommaire. Pour une fois, vous allez savoir où on va aller. Nous allons partir de l'Allemagne du grand Johann Sebastian Bach, au cœur de la tradition luthérienne, avec l'un de ses chorales de Leipzig. Ces chorales qui sont de véritables monuments de l'écriture pour orgue, je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Ensuite, nous allons aller en Angleterre, à la fin du 19e siècle, avec Edward Elgar et ses célèbres variations Enigma, dans une adaptation chorale devenue aujourd'hui presque liturgique. Et enfin, nous reviendrons en France avec un grand compositeur qui n'est pas sur le devant de la scène, mais qui fait partie des grands noms de la scène musicale à son époque. Il s'agit de Charles Gounod et de sa messe solennelle à Sainte-Cécile, une œuvre emblématique du renouveau de la musique sacrée du 19e siècle. Alors ce sont trois œuvres qui sont très différentes, déjà parce que l'instrumentation est parfois différente, parfois le chœur, parfois l'orgue et parfois un orchestre et un chœur, mais vous allez l'entendre, en plus de cela, il y a la façon de traiter le problème, si j'ose dire, du sacré qui va être très différent, mais comme à chaque fois, il y a une même ambition, c'est-à-dire faire de la musique un espace de méditation, de lumière et d'élévation. Alors sans plus attendre, nous allons passer à notre premier extrait, et aujourd'hui on commence avec Jean-Sébastien Bach. Alors, à la fin de sa vie, il est installé à Leipzig, comme cantor de l'église Saint-Thomas. Alors cantor, ça veut dire un petit peu l'homme à tout faire musical de cette fameuse église Saint-Thomas, et en particulier s'occuper de l'éducation musicale des jeunes enfants de cette école Saint-Thomas qui existe toujours aujourd'hui et qui chante par grande tradition beaucoup des motets de Jean-Sébastien Bach. Alors c'est ici à Leipzig que Bach rassemble et retravaille un ensemble de chorales pour orgue que l'on appelle aujourd'hui les chorales de Leipzig. Alors ces pièces ne sont pas destinées à un usage liturgique ordinaire. Elles relèvent presque d'un travail de synthèse et d'orfèvrerie, comme si Bach voulait fixer une dernière fois tout son art du choral. Dans la même veine un petit peu de cette production, on peut penser à l'une de ses grandes œuvres qui est également un art consommé du contrepoint, je vais en reparler un petit peu après, avec l'art de la fugue. Alors, le choral que nous allons entendre, pardonnez-moi pour mon allemand, comme Heiliger Geist, Herr Gott, vient Esprit Saint, s'inscrit dans la tradition de la Pentecôte. La mélodie est très connu des fidèles luthériens. N'oubliez pas qu'ils ont cette façon d'avoir un répertoire très développé autour des chorales, parfois écrits par Luther lui-même. Et alors, cette mélodie appartient à ce répertoire collectif que Bach n'invente pas, mais qu'il vient sublimer. Vous allez vous entendre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui est fascinant ici, dans l'œuvre que nous allons entendre, c'est le traitement du cantus firmus. Alors, le cantus firmus, qu'est-ce que c'est ? C'est cette espèce de fresque mélodique, le choral lui-même, en fait, qui vient surplomber tous les développements musicaux. Vous allez l'entendre, la mélodie est confiée à une voix qui est très ornée, presque incandescente, tandis que les autres voix, elles, développent un contrepoint d'une richesse extraordinaire. Le contrepoint, vous savez, c'est cette façon de reprendre un thème et de le développer. Quand on va entendre cette œuvre, vous allez vous en rendre compte bien vite, on est très loin d'un simple accompagnement, c'est une véritable architecture sonore où chaque ligne possède son autonomie et sa logique interne. Bach, qui maîtrisait à un degré inégalé les techniques du contrepoint, parvient ici à conjuguer rigueur structurelle et intensité expressive, et on peut entendre une forme de souffle continu, une énergie qui ne vacille jamais, comme une métaphore musicale de l'esprit lui-même finalement. Et ces chorales de Bach sont souvent considérées, à mon avis à juste titre, comme le testament organistique de Bach avec ce fameux art de la fugue, une synthèse entre tradition luthérienne, science contrapuntique et vision spirituelle. Alors on va écouter le premier de ces chorales, qui est le 651, enfin dans le catalogue des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Vous allez entendre quelque chose d'extrêmement ample, une musique presque solennelle, mais qui là aussi s'inscrit dans le cadre de la Pentecôte. Ici, vous avez une interprétation absolument sublime, signée Ton Koopman.
Thank you.
magnifique œuvre de Jean-Sébastien Bach, qui, vous l'avez bien compris, magnifie le texte du choral luthérien relatif à l'Esprit-Saint pour la Pentecôte, une manière de montrer que l'orgue est l'instrument liturgique par excellence, c'est-à-dire celui qui est capable, par le biais de son art, de ses possibilités musicales, de venir sublimer le chant, en l'occurrence un choral luthérien. Donc il y a cette espèce d'adéquation incroyable entre la voix et l'instrument, et souvent on a considéré que c'était la place naturelle de l'orgue, et évidemment quand on écoute les œuvres de Jean-Sébastien Bach, on est tenté de se dire que les choses sont bien comme elles doivent être. Maintenant que le décor est planté, si j'ose dire, et bien planté avec cette musique, je me suis dit d'ailleurs que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait écouter d'orgue seul. Voilà la chose réparée. Nous allons maintenant changer de siècle et changer totalement d'esthétique, vous allez voir. Et nous allons maintenant retrouver un compositeur anglais un peu méconnu, Edward Elgar, qui est pourtant une figure majeure de la musique anglaise à la charnière des 19e et 20e siècles. Alors, sur son compositeur, il faut savoir que Elgar était autodidacte en grande partie, c'est extraordinaire, surtout quand vous allez entendre sa musique. Et Elgar va finalement s'imposer progressivement comme l'un des compositeurs les plus importants de son pays, à une époque où l'Angleterre cherche à affirmer une identité musicale nationale. De lui d'ailleurs, évidemment quand on pense à ce compositeur, on pense à son fameux Pomp and Circumstances, qui a été repris beaucoup justement dans cette musique nationale, qui aujourd'hui fait partie des grands tubes de l'Angleterre. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre de ses grandes œuvres, à mon avis, la plus fantastique. Il s'agit des variations Enigma qui ont été composées en 1899 et qui marquent un tournant dans sa carrière. Il s'agit en fait d'une série de variations sur un thème original, chacune étant le portrait musical d'un proche du compositeur. Mais il faut savoir que Elgar introduit une idée troublante dans cette œuvre, celle d'un thème caché, jamais énoncé, et qui serait pourtant présent en filigrane dans toute l'œuvre. D'où effectivement ce fameux titre de variation Enigma. Alors cette énigme n'a jamais été résolue encore aujourd'hui de manière définitive, et elle contribue largement à la fascination que suscite la partition. Beaucoup de gens se sont penchés effectivement sur ce fameux thème célèbre. Il y a quelques hypothèses, je vous invite à vous pencher sur la question parce que c'est absolument passionnant. Et la variation que nous allons entendre aujourd'hui, c'est la plus célèbre, c'est celle de Nimrod, et elle est dédiée à August Jaeger, qui était un ami proche et un soutien essentiel du compositeur. Alors dans sa version orchestrale, Nimrod est déjà une page d'une très très grande intensité émotionnelle. Elle est construite sur une montée progressive, totalement inexorable même. Et là, vous allez entendre, il y a une adaptation qui a été faite de ce Nimrod dans une adaptation chorale intitulée Lux Aeterna. Vous savez, c'est cette fameuse fin des Requiem qui ont un rapport assez intime avec la lumière. C'est un texte liturgique, que la lumière éternelle brille sur eux, c'est vraiment sous-entendu et les enveloppe, et il y a cette espèce d'aperçu du paradis qui transforme cette méditation en une véritable prière. Vous avez une progression harmonique, lente et très ample, qui devient alors le support d'une élévation intérieure presque suspendue dans le temps. C'est une œuvre magistrale à plus d'un titre. Vous allez l'entendre, cette espèce de transition entre le 19e siècle très romantique et le 20e siècle avec la musique moderne, avec des accords qui parfois sont un petit peu particuliers, mais il y a cette dimension très stellaire, un petit peu comme si on était déjà dans les nuages, et enveloppé de cette fameuse lumière éternelle. Je vous propose donc le Lux Aeterna de Elgar, ici interprété par les Monicturn Singers. Voilà pour cette œuvre magnifique de Edward Elgar, Lux Aeterna, une œuvre, vous pouvez le deviner, véritablement orchestrale, ici absolument sublime, même avec cet effectif vocal à 8 parties qui rend le côté ample de l'orchestre. Voilà, et pour terminer, nous allons revenir en France avec un compositeur que j'affectionne beaucoup, un petit peu moins connu que peut-être ses grands contemporains, mais qui a beaucoup marqué l'histoire musicale de son temps. Il s'agit de Charles Gounod. C'est un compositeur qui a été profondément marqué par la spiritualité, au point où finalement Charles Gounod a longtemps hésité entre une carrière musicale et une vocation religieuse. Il a même envisagé un temps de devenir prêtre. Il a composé sa messe solennelle de Sainte-Cécile, créée en 1855, à l'église Saint-Eustache à Paris, qui est déjà un haut lieu musical. Hein. Pensez-y que Mozart avait fréquenté cette église. Et en fait, ça s'inscrit, cette création, dans un contexte de renouveau de la musique sacrée en France. À cette époque, la musique liturgique cherche à se réinventer entre l'héritage du plain chant et l'influence du langage romantique, et notamment avec le langage de l'opéra, parce que Gounod va proposer une synthèse qui est très personnelle, avec une écriture, vous allez vous en rendre compte très vite, hein, une écriture vocale souple, lyrique, héritée donc de l'opéra, mais mise au service du texte sacré. Alors ce que je vais vous faire entendre, c'est le tout début de cette messe, c'est le Kyrie. Et quand on l'entend, en fait, on a cet exemple qui est très frappant de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que contrairement à certaines mises en musique qui sont beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus opératiques, Gounod choisit ici une atmosphère apaisée, presque contemplative. La supplication « Kyrie eleison » n'est pas criée, elle est chantée avec beaucoup de douceur, comme une prière confiante. Et vous avez l'orchestre qui soutient les voix avec délicatesse, créant un climat lumineux, caractéristique de l'esthétique de Gounod. Et cette messe va connaître un immense succès et restera l'une des grandes œuvres sacrées les plus populaires du compositeur. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus entendre ça dans une église parce que ce langage opératique, avec le recul aujourd'hui, on l'entend clairement. Mais il faut se remettre effectivement dans le contexte de l'époque. Vous pouvez penser par exemple avec la grandiose musique de Verdi, on peut penser par exemple à son Requiem, où il y a là, vraiment, c'est l'opéra qu'on transpose à l'église. Donc évidemment, le 19e siècle est traversé par cette façon de composer. Mais vous allez l'entendre véritablement chez Gounod, il y a quand même une forme de tendresse tout à fait particulière. Je vous invite donc à la découvrir avec cette extraordinaire messe en sol majeur. Une œuvre absolument magnifique, vous allez vous en rendre compte très très vite. Je vous souhaite une très belle écoute. le début de la messe solennelle en l'honneur de Sainte Cécile de Charles Gounod. Évidemment, si cette musique vous a plu, je vous invite à découvrir l'entièreté de ce répertoire magnifique. Mesdames et messieurs, voici pour aujourd'hui autour de ces grands compositeurs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur Point d'Orgue pour un nouveau numéro, ou bien vous pouvez me retrouver ainsi que les chœurs de la Schola Cantorum et son orchestre ce samedi, le 9 mai, à 20h à la Basilique Saint-Sernin, où nous aurons le plaisir d'interpréter pour vous deux cantates de Jean-Sébastien Bach, la cantate 106 et la cantate 4. J'espère vous y voir nombreux. Vous pouvez prendre vos places directement sur place ou bien sur le site internet de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Voilà, le 9 mai à 20h. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.